Deux lectures. Je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 9. L'évangile de Luc, le chapitre 9, et dès le premier verset. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean, qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et il cherchait à le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui, se retira à l'écart dans un lieu solitaire du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Le second livre des rois, s'il vous plaît, au chapitre 4, ce sera notre seconde lecture. Deux rois, chapitre 4, et le verset 25. Pour ceux qui connaissent ce récit, il s'agit de la femme que la Bible appelle la Sunamite, une habitante de Sunem qui avait accueilli le prophète Élisée. Et vous le savez, elle qui n'avait pas d'enfant a eu un enfant miraculeusement sur une promesse de Dieu que le prophète lui a adressée. Et puis cet enfant, il lui arrive au bout de quelques années un problème fatal, des maux de tête et il meurt. Donc l'enfant est maintenant à la maison et cette Sunamite est en route pour aller trouver Élisée, l'homme de Dieu. Et donc voici ce que nous lisons au verset 25. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Gehazi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Gehazi et dit, « Appelle cette Sunamite !» Gehazi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils !» Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je voudrais continuer dans un thème. Vous le savez, ce mois de juin, il y a un thème que j'ai à cœur de développer avec l'Église. Aller plus loin avec le Seigneur. J'espère vraiment que c'est un désir moteur pour chacun d'entre nous, le désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Merci Seigneur pour le chemin parcouru, mais il y en a encore à parcourir et je veux aller plus loin, toujours plus loin. Alléluia, hein. Et on a vu l'exemple des deux disciples très découragés et qui étaient en panne et qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus ressuscité s'approche, eux ne le reconnaissent pas, mais il s'emploie peu à peu à leur ouvrir les yeux, à leur expliquer l'Écriture, et ils découvrent, c'est une révélation, qu'ils sont en présence de Jésus ressuscité. Au moment où ils ouvrent les yeux, lui, il disparaît, mais eux sont transformés. Ils étaient bloqués, ils étaient en panne, Jésus les répare et eux peuvent aller maintenant plus loin. Aller plus loin avec le Seigneur, que Dieu soit béni. Dimanche dernier, nous avons vu un autre aspect de ce sujet, aller plus loin dans le fleuve de Dieu. Nous avons parlé du fleuve de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, en passant par le psaume 46, Ézéchiel 47, l'évangile de Jean chapitre 7, verset 35. On a vu toutes ces références où il est question du fleuve de Dieu, des flots de Dieu, et ça symbolise bien sûr le Saint-Esprit, la vie du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, j'ai vraiment soif que Dieu nous conduise plus loin dans la vie du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, qu'il y ait des dons spirituels, des prophéties, des paroles de guérison, de connaissance. Ça, c'est tout un arsenal que Dieu tient à la disposition de son Église pour la rendre efficace et puissante. Aller plus loin avec le Saint-Esprit. Et j'espère que chaque jour de la semaine qui vient de s'écouler, depuis dimanche dernier, ça a été votre sujet majeur. J'espère que, parce que si nous écoutons la parole de Dieu, elle doit devenir un sujet de prière, afin que Dieu nous aide à la vivre. Alléluia. Alors vraiment, j'insiste de tout mon cœur sur l'importance, je dirais que après la conversion, l'expérience la plus marquante et utile, c'est celle du baptême dans le Saint-Esprit, qui va te revêtir de la puissance de Dieu et de la qualification qui nous fait défaut naturellement, mais qu'il veut nous donner surnaturellement. Que son nom soit béni. Ce matin, aller plus loin avec le Seigneur, et en particulier le thème, aller plus loin que nos échecs. Aller plus loin que nos échecs. Et si Dieu le permet, nous le verrons ce matin et dimanche prochain sous deux aspects particuliers. Oui, parce que lorsque Élisée et la Tsunamite arrivent pas loin de la maison, il y a Géasi qui en sort à leur rencontre et il fait un compte-rendu, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et moi j'appelle ça un constat d'échec. Pourtant, il avait été mandaté par l'homme de Dieu, il avait entre les mains le bâton de l'homme de Dieu, il avait des consignes très précises, met le bâton sur le visage de l'enfant et il a fait les choses méticuleusement, il a obéi avec beaucoup de soin, mais l'enfant ne s'est pas réveillé, c'est un constat d'échec. J'ouvre ici une parenthèse, frères et sœurs, c'est que Géasi se limite simplement à faire un rapport. L'enfant ne s'est pas réveillé, mais je pense que à sa place, je suis même pratiquement convaincu que je ne me serais pas limité à faire simplement un compte-rendu, mais je me serais posé la question, pourquoi ? Comment ? Pourquoi ? Parce que voyez-vous, l'échec n'est pas de Dieu. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 8, verset 14, Dieu dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Gloire à Dieu. Le succès est de Dieu, l'échec jamais. Donc, dans la normalité des choses, le moindre que Géasi aurait pu quand même exprimer, c'est comment ça se fait ? Comment ça se fait ? J'aimerais vous dire que vous et moi, nous avons certainement vécu des échecs ou des semblants d'échecs, ce que nous avons pensé être un échec. Nous en vivrons peut-être encore, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas ça le plus essentiel. Le plus important, c'est de laisser Dieu nous éclairer sur le pourquoi. Comment ça se fait, Seigneur ? Comment ça se fait ? Tu es le Père des Lumières chez qui il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Tu es celui qui est, qui était, qui vient, donc tu ne changes pas. Et alors comment se fait-il que dans cette circonstance qui me touche personnellement, apparemment ça n'a pas marché ? L'enfant s'est pas réveillé, on pourrait dire, n'est-ce pas ? Il n'y a pas eu le résultat attendu, le résultat demandé, le résultat escompté. Un échec. On reviendra tout à l'heure et plus longuement dimanche prochain sur ce récit. Mais au fond, ce que nous avons lu dans l'évangile de Luc, c'est un scénario quand même qui a des similitudes. Parce que rappelez-vous, on vient de le lire il y a 5 minutes, Jésus rassemble les 12. Et c'est extraordinaire ce que nous lisons. Il leur donne force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoie prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Oh, le mandat est clair. Et ça ne fait même pas l'ombre d'un doute. Je vous envoie pour prêcher le royaume de Dieu et pour guérir les malades. C'est le mandat du Seigneur qu'il confie à ses disciples, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'il le confie aussi à son Église. Comme il a envoyé les 12, puis les 70, il nous envoie aussi, puisque avant de monter au ciel, Matthieu 28, il dira « Allez par tout le monde ». Et dans le « aller », je suis concerné, tu es concerné. Et il nous envoie avec le même mandat, et j'ose dire, appuyé sur les Saintes Écritures, avec le même équipement de puissance. Il leur donne force, pouvoir, puissance pour chasser les démons, guérir les malades et amener des impénitents à la repentance et à la foi pour leur salut. Ils y vont. Les premiers versets sont remarquables, puisque au verset 6, il est écrit « Ils partirent, ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Dieu, à travers eux, a guéri des multitudes et visité des foules. Ils rentrent de mission. » Au verset 10, « Étant de retour, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. » C'est merveilleux. Écoutez, jusqu'au verset 10, c'est merveilleux. Et à partir de là, on n'a pas lu les 62 versets de ce chapitre 9 de Luc. Vous allez rencontrer au moins à 5 reprises les disciples en position d'échec. On peut se dire, mais pourquoi et comment? Et le but de ce partage biblique, c'est de nous éclairer et de stimuler notre réflexion honnête sous le regard de Dieu, afin que Dieu nous éclaire et qu'il localise les facteurs d'échec et nous permette ensuite d'aller plus loin que nos échecs. C'est le thème de ce message. Aller plus loin que nos échecs. Car ce que Dieu veut pour toi, c'est le succès. Et ce n'est pas l'échec. Faites-moi quelque chose. Il veut te bénir. Il n'est pas satisfait de voir l'un même de ses enfants bloqué, figé dans une situation d'échec. Car, je le répète, l'échec n'est pas de Dieu, c'est le succès qui appartient au Seigneur. Le conseil et le succès lui appartiennent, que Dieu soit béni. Alors le succès, je suis toujours dans mon préambule, le succès, quelqu'un a dit que le succès, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon cholestérol et il y a le mauvais cholestérol. Et en matière de succès, la Bible tient un langage un peu similaire. La Bible me parle de la gloire des hommes et de la gloire de Dieu. Et elle dit, ils préférèrent la gloire des hommes. Ça, c'est le mauvais cholestérol. Ça, c'est le succès humain. C'est le succès qui te bouche les artères, qui te fait de l'hypertension. Après, tu prends la grosse tête. Et nous vivons une société qui contribue à inculquer cette vision du succès. La gloire des hommes, c'est le succès selon l'homme. Et même dans les milieux chrétiens, quand vous allez sur certains sites chrétiens, les internautes, une des premières choses qu'ils regardent, c'est le nombre de vues de l'émetteur de sa séquence vidéo. Nombre de vues. Ouais. Alors quand vous voyez un truc, plusieurs kilos vues, plusieurs, je ne sais pas, je ne connais pas moi ces diminutifs, là, les gigavues, je ne sais pas, enfin, il y a beaucoup de vues, quoi. Hein. Et plus il y en a, et plus de l'admiration se manifeste et de l'intérêt, et même un certain crédit. Et les gens se disent, si cette personne a eu autant de vues dans son émission, ah, c'est que ça vaut le coup, ça vaut la peine, etc. Ça n'est que de l'illusion, c'est du mauvais cholestérol. Ça va nuire à ta santé. Parce que le nombre de vues ne fait pas la qualité du succès et l'approbation de Dieu sur la personne. Ce sont des critères que le monde a choisis pour nous illusionner Et je ne veux pas faire partie de ces gens dont il est dit, je le répète, ils préférèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, eh bien, c'est une crèche, une étable, avec un simple bébé. Voilà la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est des portes fermées pour accueillir le Sauveur, complet, complet, complet. Et il n'y a qu'une place dans un peu de paille. Ça, c'est la gloire de Dieu. Voyez, la gloire de Dieu, c'est un adolescent qui grandit dans un foyer de charpentier. Oui, sauf que, quand il s'entretient avec les docteurs hyper diplômés en théologie de l'époque, eh bien, cet adolescent de 12 ans manifeste une sagesse qui laisse muet tout le monde. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est Jésus de Nazareth, dont la voix ne s'élève pas sur les places publiques, qui n'avait ni éclat ni beauté pour attirer les regards, mais quand même, quand il ouvrait la bouche, on venait de tous les pays voisins et on oubliait le temps qui passe, la nécessité de manger, et ils étaient suspendus à l'enseignement qui sortait de sa bouche. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est la gloire véritable. Parce que la gloire des hommes, elle passe, mais celle de Dieu, elle est éternelle. C'est ce succès-là que nous voulons, oui ou non? C'est ce succès, c'est le succès de Dieu. C'est la gloire de Dieu, c'est la gloire de Jésus. Et ce succès-là, Dieu le veut. Pour chacun de ses enfants, au plan individuel, mais aussi pour son Église. Dieu ne veut pas d'une église dépouillée, incapable, inefficace, exténuée, épuisée, honteuse, défaitiste, usée. Mais Dieu veut nous donner toutes les ressources de son royaume afin que le succès, son succès, accompagne notre marche chrétienne dans ce monde en perdition. C'est ainsi que je voudrais localiser avec vous, dans ce chapitre 9 de l'évangile de Luc, 5 situations où les disciples ont été dans l'échec. Et pourtant, ça avait drôlement bien commencé, hein. Mais là, il nous est dit, par exemple, « Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule !» afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Renvoie la foule. » Et visiblement, Jésus n'est pas d'accord, puisqu'il leur répond immédiatement, « Donnez-leur vous-même à manger. » Et par cette parole, Jésus veut les faire aller plus loin. N'est-il pas frappant de lire dans le verset précédent, les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit, Jésus les accueille. Le verset suivant, les disciples lui disent renvoie, renvoie. Ils sont à l'opposé de la volonté et des desseins du Seigneur. Et c'est ici un premier facteur d'échec. Les dispositions de cœur en manque d'accueil et de compassion. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous garde de nous féliciter égoïstement d'être sauvés, alors qu'une foule immense nous entoure. Et vous la côtoyez, je la côtoie, on les rencontre tous ces gens qui sont sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Ils sont perdus, ils sont rongés par le mal, ils sont liés par la drogue, ils sont prisonniers de la dépression, des pensées suicidaires. Ils n'en peuvent plus, chaque jour nouveau est un supplice pour eux. Ils sont morts dans leurs péchés, dans l'ignorance de ce grand Dieu sauveur. Et Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. On l'a compris, ce n'est pas de la nourriture physique dont il s'agit. Mais il s'agit de venir leur proposer gratuitement, généreusement et avec compassion et enthousiasme l'évangile du Seigneur qui va changer leur vie. Est-ce que nous croyons que l'évangile de Dieu peut encore changer la vie ? Transformer la créature malheureuse, liée, enchaînée en une personne libre parce que le Fils l'aura affranchi. Que Dieu soit béni. Amen. Aller plus loin que cet échec que moi je nomme l'égoïsme. Vous savez que lorsque l'apôtre Paul a donné le portrait moral et spirituel de la génération de la fin des temps, il y a toute une enfilade de qualificatifs. Les hommes seront... Mais le premier qualificatif, c'est égoïste. Les hommes seront égoïstes. Et à force de vivre dans une société d'hommes et de femmes égoïstes, je peux moi-même en être plus ou moins profondément atteint, que Dieu me garde de l'égoïsme. Amen. Que Dieu éclaire mes yeux, bouleverse mon âme, afin que je porte les regards sur la foule qui est perdue. Frères et sœurs, je prie le Seigneur pour que notre église d'Aubagne se remette à évangéliser un peu, non ? Oui ou non ? Que chacun d'entre vous devienne un flyer vivant. Enfin, flyer, vous savez, c'est l'ancien prospectus, quoi. Que chacun de nous soit un gagneur d'âme. D'ailleurs, Dieu voulant, à la rentrée, je vais vous proposer sur inscription un enseignement et un encouragement appelé gagneur d'âme, le gagneur d'âme. Que Dieu fasse de nous des gagneurs d'âme, des sauveteurs, des secouristes, des gens qui vont être des passionnés de secourir. Que Dieu nous garde d'être comme ce lévite, comme ce sacrificateur. Il voit agonir le pauvre là-bas, dans le coin, côté de la route, et il passe outre. Il passa outre. Oh, quel choc ! Que Dieu fasse de nous plutôt ce Samaritain, ce bon Samaritain. Dès qu'il voit le mourant, il s'arrête, il ne peut pas faire autrement. J'ai envie de dire qu'il accueille dans son cœur, il l'accueille. C'est comme si c'était lui ou un de ses enfants. Vous voyez, les dispositions de son cœur le conduisent immédiatement à venir, à soigner, à rassurer, à dorloter, à entourer d'affection. Et il le met sur sa monture et il pourvoit à toute sa restauration. Il le met en sécurité. Que le Seigneur nous enseigne ce matin. Parce que un des facteurs de l'échec, c'est l'égoïsme. L'apôtre Paul pleure en écrivant « Je n'ai ici personne qui prenne à cœur les intérêts de Jésus-Christ. » Tous cherchent leurs propres intérêts. C'est écrit. Et si c'est arrivé à ces chrétiens du premier siècle, ça peut m'arriver aussi. Que Dieu me garde, me visite, me ravive dans mes dispositions du cœur. Jésus accueille les disciples, renvoie, ils sont en échec, mais Jésus ne les condamne pas, il les enseigne, il les stimule, donnez-leur vous-même à manger, et voici que ses disciples entrent dans cette dimension, la multiplication des pains et des poissons, que le Seigneur soit béni. Et puis, ce chapitre 9 se déroule encore, et il y a ce fameux épisode, glorieux épisode, où, donc 8 jours après, nous dit l'Écriture, Jésus entraîne Pierre, Jacques et Jean au sommet d'une grande montagne, et vous trouverez cela à partir du verset 28. Ils suivent Jésus, et la Bible nous dit, au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient à peu appesantit par le sommeil. Et j'y vois là une deuxième situation d'échec. Appesantit par le sommeil. C'est étonnant de constater, je l'ai fait tant de fois, de constater que pour plein de choses, on est capable de parler, de s'exprimer, etc. Et dès qu'il s'agit d'avoir un temps de prière, c'est un silence pesant, paralysant. Et j'aimerais parler quelques instants de ce deuxième facteur d'échec, le manque de prière. Dès que tu disposeras ton cœur à chercher Dieu, tu vas rencontrer cette réalité, ce défi de ressentir une pesanteur. La prière, cependant, elle est capitale, elle est vitale. Et dimanche prochain, dans l'attitude d'Élisée vis-à-vis de cet enfant mort, on va en parler plus en détail. Mais une église qui ne prie pas, ou qui prie peu, ou qui prie mal, sera une église sclérosée. Or, le Seigneur ne veut pas que son église le soit. Il veut que son Église soit vivante, bien vivante, alléluia, dynamique, en mouvement, en service joyeux, afin de contribuer au salut des perdus. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où en est la qualité de ta vie de prière, mais vous savez... Le mot prière, ça peut devenir, vous savez, je sais pas comment on appelle les petits, vous savez, quand on envoie, il y a des petits signes là, il y a des visages qui sourient, hein. Et il y a des mains jointes aussi, des mains jointes, hein. Alors, c'est facile ça, hein. On en met trois même, trois paires de mains jointes. Ça veut dire, je prie beaucoup. Tu pries rien du tout, en fait. En fait, tu es en train de te mentir toi-même. Tu fais semblant. Tu peux en envoyer 20 comme ça, hein, mais c'est pas ça qui fait la prière. La prière, c'est pas d'envoyer deux mains jointes. Non, non, non. La prière, c'est entre dans ta chambre, ferme la porte et tiens-toi là, dans le lieu secret. Ton Père est là, dans le lieu secret. Et là, tu vas vivre un cœur à cœur précieux avec lui. Tu vas lui parler, mais il va aussi te parler. Tu vas lui présenter, mais lui aussi, il va te visiter. Il va se passer des choses dans ta chambre. Des situations vont se dénouer dans ta chambre. N'en as-tu pas assez de faire du surplace et de t'époumoner, de t'épuiser, de t'exténuer sans faire un mètre d'avance, n'est-ce pas? Mais ce que le Seigneur veut, c'est te faire aller plus loin. Et sans la prière, c'est pas possible. Je disais il n'y a pas longtemps, la prière, quelqu'un a dit, c'est la respiration de l'âme. Et je rajoutais, il y a des chrétiens, ils sont en apnée depuis pas mal de temps, depuis trop longtemps. Mets-toi à respirer l'oxygène du ciel. Quand tu te mets en prière, ouvre ton cœur, ouvre tout ton être. Laisse visiter ta vie par cette bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui n'est suivie d'aucun chagrin. Que Dieu soit béni. Alléluia. Vraiment, ma prière, c'est qu'en partant de ce lieu, quelqu'un prenne la résolution durablement de changer sa vie de prière. Amen. Un pasteur, un jour, qui avait eu un certain succès, même je peux dire un succès certain, mais vraiment dans l'humilité, hein, il a toujours donné gloire à Dieu. Et un jour, il était là en train de marcher dans un des nombreux couloirs du bâtiment de l'église, et il voyait les salles annexes, département enfance, département troisième âge, département évangélisation, et il passe devant une porte, département prière, et là, Dieu lui parle. Il prend conscience, c'est lui qui avait fait mettre ça, hein, il prend conscience d'une erreur. Et là, dans le couloir, il s'arrête, il se met à pleurer devant le Seigneur. Et il lui demande pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir réduit la prière à un simple département. Parce que la prière, ce n'est pas un département. La prière, c'est le bain spirituel dans lequel toute l'Église doit baigner abondamment. Tout doit baigner dans la prière. Est-ce que vous êtes d'accord? Tous? Gloire à Dieu. Tout doit, ça doit baigner dans la prière. La prière, c'est ta respiration spirituelle. Tout. Tu commences ta journée dans la prière, tu la vis dans la prière, même si tu dois être attentif, effectivement, à tes tâches. Mais intérieurement, tu es là, dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et le soir, tu t'endors dans cette situation de plonger dans le Seigneur. Gloire à Dieu. La prière doit être une constante majeure dans la vie du chrétien. Alléluia. Que le Seigneur nous y encourage, mais on va y revenir dimanche prochain. On continue. Maintenant, Jésus descend de la montagne avec les trois disciples. Et là, ils arrivent, vous savez, vous connaissez bien sûr cet épisode très fort, hein, de ce papa dont le fils était possédé d'un démon qui l'agitait, qui voulait le détruire en le plongeant dans de l'eau ou dans le feu. Et les 9 disciples qui étaient restés en bas, le papa était venu les solliciter. Et le père vient vers Jésus. « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui. Après l'avoir tout brisé, « J'ai prié tes disciples de le chasser. » Verset 40, « Et ils n'ont pas pu. » Constat d'échec. Ils l'avaient fait pourtant au début du chapitre. Ils avaient chassé des démons. Ils avaient guéri des malades. Et là, constat d'échec. Ils n'ont pas pu. Et Jésus révèle le pourquoi, l'explication à cet échec, race incrédule. Et j'aimerais vous parler d'un troisième facteur qui causera des échecs, c'est le manque de foi. Le manque de foi. C'est certainement le sujet le plus prêché, la foi, le plus abordé, la foi. Et cependant, nous avons, vous et moi comme vous, impérieusement besoin que le Saint-Esprit vienne raviver ma foi, ranimer ma foi. Je ne voudrais pas que ma foi subisse une mutation appauvrissante et devienne de la religiosité. La religiosité. Un jour, avec tout le respect que j'avais pour elle, j'ai dû reprendre une mamie dans l'église de Nîmes. Parce que un mardi soir, je vois une scène, la mamie arrive et il y avait un couple de retraités assis là et avec sa canne, elle tape sur les pieds de la chaise en disant « C'est ma chaise !»« Sortez, c'est ma chaise !» Alors, et ce couple était là pour la première fois. Hein. Alors bon, ben, poliment, eux, ils se retirent et la mamie est toute contente sur sa chaise. Et après la réunion, ces amis que je salue, ça va, m'ont dit, c'était bien, la réunion était bien, mais, il y avait un mais quand même. Hein. Je crois qu'il n'y a pas de catégorie différente de bénédiction selon la chaise. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a rencontré Christ, baptisé du Saint-Esprit, a persévéré dans de multiples épreuves pendant des décennies, en arrive cependant à un état de telle religiosité. Eh bien, la religiosité, ça va paralyser ma foi, à moins que je laisse le Seigneur me faire aller plus loin. Et si une sédimentation subtile s'est effectuée sur ton cœur, formant aujourd'hui une carapace de religiosité, ben tu as besoin certainement d'une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Amen. Je vous fais une petite confidence comme ça, ne le dites à personne, ne mettez pas sur Facebook. Souvent, lorsque je viens pour apporter la parole de Dieu, je dis, Seigneur, permets-moi de prêcher comme si c'était la première fois et comme si c'était la dernière fois. Parce que la première fois, je m'en souviens, moi, vous savez, quand on m'a demandé, pour la première fois, d'apporter une prédication, je m'en souviens. Ça, c'est, je suis marqué définitivement. Je cherchais mes mots. J'avais des trous. J'avais du mal à m'y retrouver dans mes notes. J'avais ma langue, c'était un bout d'isorelle sèche. Et en plus, je me rappelle, je prêchais sur si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, vous voyez. Et moi, j'avais toute ma bouche sèche. Et quand j'ai fini ma réunion, j'avais mes oreilles qui touchaient le sol. J'étais honteux, j'étais malheureux. Mais bon, Dieu m'a montré qu'il me fallait sa grâce. Hein. Et je dis, Seigneur, permets que chaque fois, je prêche comme si c'était la première fois, que je me souvienne toujours que c'est ta grâce. Mais aussi comme si c'était la dernière fois. La dernière fois. C'est la dernière cartouche. La dernière occasion, il n'y en a pas d'autre. Alors qu'est-ce que vous voulez? Mais on y met toute notre foi. On ne peut pas se laisser peu à peu contraindre par une carapace de religiosité. Mais moi, je crois qu'à chaque réunion, Dieu veut manifester sa gloire. Non? Non, trois ou quatre? Est-ce que vous le croyez? Chaque réunion peut être marquée par une intervention particulière, glorieuse du Seigneur. Alléluia. Et si un jour, tu rentres chez toi sur un sentiment un peu frustré, Seigneur, ce soir-là, ce mardi soir, ou alors ce dimanche, je ne sais pas, il y a un petit arrière-goût, il manque quelque chose. Comme un bon repas, on a oublié de mettre le sel. Ah, Seigneur, permets que le prochain culte, nous vivions des choses qui vont combler notre âme. Gloire à Dieu. Hein. Seigneur, viens nous visiter. Viens faire ton œuvre dans les cœurs. Faire tomber la carapace de la religiosité et nous donner de garder notre foi dans une qualité authentique et que tu reconnaîtras. Trouverai-je la foi sur terre? La religiosité, oui. Mais la foi qui honore Dieu. Vous savez que il y a un martèlement dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi. Et ça n'a pas changé, hein. 2000 ans après, c'est par la foi que tu vas vivre la délivrance. C'est par la foi, en saisissant ne serait-ce que une phrase d'une prédication, que tu vas être guéri instantanément. C'est par la foi que tu vas amener tes enfants au Seigneur. C'est par la foi que ce collègue au travail qui n'en peut plus va connaître Jésus. C'est par la foi, eh bien, que Dieu maintienne notre foi dans sa pureté et son authenticité, que son nom soit béni. Et puis on continue, et à un moment donné, on rencontre le verset 46. Et ce verset 46, alors que Jésus vient de libérer ce garçon de sa possession, vous voyez, après Jésus commence à préparer ses disciples concernant son sacrifice prochain, la Bible nous dit ils ne comprirent pas ce qu'il était en train de leur dire, ils ne comprenaient pas, ils étaient bouchés à l'aimerie. Et par contre, tiens, étrangement, une pensée leur vint, verset 46. Il y a des pensées comme ça qui vous viennent. Et c'est pas banal comme pensée. Une pensée leur vint dans l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Pas mal comme pensée. Vous vous posez la question, vous ? Lequel d'entre eux, lequel parmi nous est le plus grand ? Ben moi, je dis que c'est Jésus. Amen. On ne se pose même pas la question. C'est Jésus le plus grand. C'est vers lui que doivent converger nos regards. C'est à lui que nous adressons notre amour et notre révérence même. lequel est le plus grand ? Ceci donc nous enseigne sur un quatrième facteur d'échec, l'orgueil, puisque Dieu résiste aux orgueilleux. Alors l'orgueil, qu'est-ce que vous voulez, ça, il est parfois hideux, il est parfois religieux, il est parfois flagrant, défiant, puis il est parfois très dosé, très mesuré, mais c'est de l'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Donc le facteur que j'aborde ici, c'est le manque d'humilité. Le manque d'humilité, moi je dis que l'humilité en fait, c'est du réalisme, oui ou non? Oui ou non? C'est du réalisme. Comment faire autrement que d'être humble? L'humilité, ça vient du mot humus, la terre. Donc je me souviens que le Seigneur a pris un jour un peu de poussière et il a fait moi. C'est l'humilité, c'est humus, c'est nos origines, voyez, l'humilité. L'humilité, elle précède la gloire. Donc il y a le succès qui est là. Conséquemment à l'humilité. C'est tellement important. Oh. Quelquefois, quand je lis certains récits d'hommes, de personnages de la Bible, je vois par exemple l'apôtre Paul, par exemple, quand même cet homme, il a été transporté au troisième ciel. Il a entendu des choses qu'il est interdit de répéter. Et, quel homme. Il fait une réunion qui dure jusque tard dans la nuit. Rassurez-vous, je m'arrêterai avant. Il y a un jeune homme, Eutychus, il est sur le rebord de la fenêtre. C'est toujours une position dangereuse parce qu'il n'était pas dedans, il n'était pas encore dehors, mais à un moment donné, il s'endort et il tombe. Il aurait pu tomber dedans, mais il est tombé dehors, troisième étage, et il est mort. Mais il y avait l'homme de Dieu qui était là, Paul. Et voilà. En communion avec le Seigneur, il comprend, Dieu lui rend ce témoignage intérieurement. Non, sois tranquille, son âme est encore là. Voilà. Et il invoque le Seigneur, Eutychus est ressuscité, gloire à Dieu. Ah, quand même, c'est formidable. Eh bien cet homme, quand il parle de lui-même, à un moment donné, il écrit dans 1 Corinthiens 15, « Je suis le moindre des apôtres. » C'est humble, quand même. Mais enfin, il est apôtre, quand même. Il n'oublie pas, quand même, de dire que, son titre. Quoi. Le plus petit, mais parmi les apôtres. OK. Et puis, le temps passe. Et Paul est à l'école de Dieu, à l'école du brisement, à l'école de l'humilité. Et à un moment donné, il dit, je suis le plus petit des rachetés, des chrétiens. Je suis le plus petit. Il a oublié le titre apôtre. Je suis le plus petit des chrétiens. Vous vous rendez compte? Et puis le temps passe. Les épreuves, les expériences, les combats. À Timothée, il écrit, c'est une parole certaine, véritable, entièrement digne d'être reçu, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il est le premier des pécheurs. Vous vous rendez compte? L'évolution dans le domaine de l'humilité, il est quand même humble parce qu'il se considère le plus petit des apôtres parce qu'il avait persécuté l'Église. Et puis le Seigneur le malait et son humilité se développe, il est le plus petit des chrétiens, et ça continue, il est le premier des pécheurs. Mais moi je prie le Seigneur, parce que ça c'est l'antidote qui va nous garder de l'orgueil et de prendre la grosse tête, c'est que le sentiment d'humilité progresse en nous, et que le Seigneur nous fasse aller plus loin que les crispations orgueilleuses. savoir qui a tort, qui a raison, de savoir affirmer quand même moi, je, ego. Ben non, l'humilité va me débarrasser progressivement à l'école de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et puis je termine avec un cinquième facteur d'échec. Les événements se déroulent encore. Et puis voici que Jésus veut entrer, est en marche vers Jérusalem, mais il veut entrer dans un village de Samaritains. C'était sur la route. Et donc, il envoie et il apprend que les villageois samaritains lui refusent l'entrée et donc le passage. Et là, mes amis, Jacques et Jean, verset 54, voyant cela, dirent : Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume comme Élie le fit ? Vous voyez, même ils prennent des références bibliques quand même, hein, ils sont spirituels. Hein. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant : Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Je termine avec cette réaction très violente de ces deux disciples, fort justement surnommés Boanerges, les fils du tonnerre. Hein. Alors, ils avaient la foi là pour faire descendre le feu du ciel. Tellement leur réaction de colère les avait saisis. Et ça, c'est le cinquième facteur d'échec. Notre impatience, notre caractère intempestif, intempérant, le manque de patience. Le manque de patience. Que Dieu nous fasse aller plus loin que nos impatiences. Amen. Le manque de patience. Parce que, moi je dis une chose, heureusement que Jésus n'a pas exaucé la prière des deux disciples. Pourquoi ? Parce que un peu plus tard, dans le temps de Dieu, toute la Samarie a été visitée par un réveil. Hein. Quand Philippe, l'évangéliste, est arrivé en Samarie, il y prêche à Christ, et alors il y a eu un réveil dans toute la Samarie, et je suis persuadé que ces villageois ont été visités par ce réveil, comme les autres Samaritains. Heureusement que Jésus n'a pas exaucé cette prière scandalisante, hein, ça l'a choqué, le Seigneur, mais que Dieu nous donne aussi de la patience. Combien d'âmes avons-nous perdues par un élan d'impatience. Hein. Que le Seigneur nous donne la patience, j'en parlais mardi soir, la patience de Christ, ce n'est pas de la passivité, c'est de l'opportunité. Elle attend le temps de Dieu, parce que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je conclue avec cette parole adressée à quelqu'un ce matin, dans ta vie, et pour la situation que tu vis présentement, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Prends patience. Une patience qui équivaut à une attente joyeuse. Amen. Ce n'est pas une patience contrainte et résignée. Non, la patience de Christ, c'est le chrétien qui attend. Déjà, il jubile, il sait qu'un temps approche où Dieu va se glorifier. Que cette patience te soit donnée ce matin. Alléluia. Si quelqu'un est en situation qui lui semble être comparable à un échec, le Seigneur veut que tu ailles plus loin que ton échec. Ne reste pas là où tu en es, mais laisse le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui vient d'être prêchée te donner un nouvel élan, de reprendre ta course, de reprendre ta joie, alléluia, et d'aller avec tes frères et tes sœurs de victoire en victoire, alléluia.